nouveau barème. Donc je vais faire en premier lieu et puis le docteur Soulman après et vous pourrez poser vos questions. Comme on doit toujours déclarer ses conflits d'intérêts, ce matin il était dit oui les publications, on ne sait pas toujours qui publie. Il faut quand même regarder si la revue est sérieuse et puis on doit justement déclarer ses conflits d'intérêts et si on a fait une étude où il y avait des financements, il faut dire d'où viennent les financements. Alors je vous déclare pas mes conflits d'intérêts mais ce que je fais concrètement. Donc je suis expert judiciaire et je fais de l'expertise pour la justice, hein. Je ne fais pas de mission privée. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des changements à venir en matière d'ATMP, d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Et dans une seconde partie, je parlerai de ce nouveau barème que j'ai ramené là, comme ça, si vous ne l'avez jamais vu. Voilà. On verra ça dans un second temps. Premier temps, la sécurité sociale, des modifications à venir. À venir, la loi elle a été changée. C'est la loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Mais qui n'entrera pour cette partie-là, ça entrera en vigueur au plus tard, au 1er juin 2026. Donc ça va s'appliquer aux victimes d'accidents de travail qui seront consolidées à partir de cette date. Donc il y a des gens qui aujourd'hui ont un accident de travail, ils seront consolidés que dans un an et ils seront concernés, puisque ça s'appliquera donc aux consolidations fixées à partir du 1er juin 2026. Ce qui est important, c'est cette notion de rente duale. Aujourd'hui, vous savez que on perçoit un capital quand on a un taux de moins de 10%, une rente à partir de 10%, que le calcul de la rente est fait sur le salaire, hein, en fonction du salaire. Le calcul du capital, par contre, ça va de 450 € en gros pour 1% à 4 500 € pour 9%. Hein. Ce n'est pas dépendant du salaire, c'est pareil pour tout le monde. Donc demain, il y aura une rente duale. Une part d'incapacité permanente professionnelle, qui globalement est l'IPP qu'on connaît aujourd'hui, et une part d'IP fonctionnelle. Alors peut-être que ces sigles seront amenés à changer. Moi j'ai mis IPF, mais est-ce qu'on parlera d'IPF? Je ne sais pas, mais j'ai mis ça comme ça, incapacité permanente fonctionnelle. Les articles du Code de la Sécurité sociale sont bien bouleversés, ont changé de numérotation, mais l'article qui existait auparavant pour fixer l'IP, il reste le même. Hein. Là, ça pour le coup, c'est juste un changement de numérotation. L'IP, qui devient l'IP professionnelle, elle est déterminée en fonction de la nature d'infirmité, mais pas que, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, et selon les aptitudes et qualifications professionnelles. Alors vous savez bien qu'il existe un barème AT, un barème MP, on utilise surtout le barème AT. Ces barèmes, ils sont en annexe du Code de la Sécurité sociale, ils sont sur les Légifrance. On sait très bien qu'aujourd'hui, le barème actuel, on ne prend pas en compte tout ce qui est prévu dans l'article du Code de la Sécurité sociale, parce que concrètement, une amputation d'index, on la met à peu près, on met le même taux pour tout le monde, quel que soit l'état général, l'âge, les facultés physiques, etc. Donc cette IP professionnelle, ça correspond en fait par rapport à Dintillac, au PGPF, perte de gains professionnels futurs, et à l'incidence professionnelle. C'est différent du coefficient professionnel qu'on ajoute aujourd'hui quant au taux d'ATMP quand il y a eu un licenciement dans les suites de l'ATMP. Ça existait déjà, mais ça devient l'IP professionnel. Se rajoute l'IP fonctionnel, donc, que j'ai appelé IPF. L'IP fonctionnel, donc, en fonction des atteintes qui persistent après la consolidation et qui donc relèvent du déficit fonctionnel permanent qu'on connaît bien en droit commun. Donc il est dit que ce sera fixé suivant un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Il y aura un capital qui sera versé. Ce capital, c'est comme ce qui se fait suivant le référentiel Mornay. Hein. On prend le taux de DFP et puis on a un tableau qui, en fonction de l'âge, donne la valeur du point. La valeur du point elle diminue avec l'âge. Et donc on dit 5%, par exemple, à tel âge, la valeur du point c'est 2 000 €. Donc ça fait 5 fois 2 000, ça fait 10 000 euros. Ça fait un capital de 10 000 euros. Alors est-ce qu'il faut un nouveau barème? J'ai pu interroger le docteur Philippe Petit, qui est médecin conseil à la Caisse nationale d'assurance maladie. La sécurité sociale est en train de travailler, au sein de la sécurité sociale, est en train de travailler à un nouveau barème qui est en fait, il n'y a pas de changement du barème ATMP tel qu'il existe aujourd'hui, et un barème qui se rajouterait pour l'IP fonctionnel. Et comme ils ont commencé leurs travaux avant la sortie de ce nouveau barème, ils sont partis sur celui du concours médical de 2000, hein, le précédent. Hein. Alors, ils rajoutent des choses parce que dans les maladies professionnelles, il y a tout un tas de pathologies, notamment cancéreuses, qu'on n'a pas en post-traumatique. Ce n'est pas prévu dans les barèmes où on est essentiellement, où on fait du post-traumatique. Donc, il faut aussi rajouter des références, notamment pour les pathologies cancéreuses. Donc, à venir. Alors, à venir quand ? Ben, quand on regarde sur Légifrance l'échéancier, on voit que à la direction de la Sécurité sociale, ils ont beaucoup de travail parce qu'ils ont tout un tas d'arrêtés et de décrets à faire, dont la publication est envisagée en décembre 2025. Alors, ils se sont donné un peu de temps puisque, vous voyez, c'est applicable au plus tard au 1er juin 2026. Bon, ça aura peut-être du retard, hein, la publication de tout cela. Mais donc, il y aura un barème indicatif d'incapacité professionnelle, mais qui va reprendre ce qui existe déjà. Un barème à partir duquel le taux d'incapacité est déterminé en fonction des atteintes. Donc, bref, c'est alambiqué, mais donc c'est un barème qui fera l'IP fonctionnel qui correspond au DFP. Hein. Il y a un barème qui sera revalorisé au 1er avril pour savoir, mais ça correspond ça en fait à combien on perçoit quand on a de 1 à 9%. Ce seuil de 10% hein, qui fait le seuil de la rente, ne va pas changer, hein, ça va rester à 10%, parce que ça, c'est pas prévu dans la loi, hein, c'est dans le décret que c'est prévu 10%, mais ça restera à 10%, en dessous de 10% capital, au-dessus de 10% la rente pour l'IP professionnel. Et c'était déjà comme ça, c'est déjà revalorisé en fait tous les ans. Un référentiel aussi, justement, pour la valeur du point, donc ça va ressembler au tableau de Monsieur Mornay, en fonction du taux d'IP fonctionnel. Quelle est la valeur du point d'IP. Ça, il faut qu'il le fasse. Vous voyez, encore d'autres référentiels qui sont prévus. Également, la possibilité de verser plus sous forme de capital. Ça, c'est notamment pour les gens qui ont une pathologie, une maladie professionnelle cancéreuse. Vous savez bien que des fois, le temps que l'AMP soit reconnue, ben, les personnes sont décédées. Hein, voilà. Donc on leur dit que ben, ça y est, ils ont une rente, mais sauf qu'ils sont décédés. Et donc c'est quand même intéressant d'avoir un cas. Intéressant, je ne parle que d'un point de vue financier, hein, pas d'un point de vue humain. Ce n'est pas du tout intéressant. Mais voilà, financièrement, c'est plus utile de leur donner un capital au moment où ils ont déjà leur cancer qui est évolué, plutôt que de leur dire qu'ils ont une rente quand ils sont déjà morts. Donc, c'est une grande avancée. Hein. Clairement, c'est une grande avancée pour les victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles, parce que ça s'applique à tout le monde. Là, il n'y a pas besoin de faire de procédure. On est dans le caractère systématique de la prise en charge des AT-MP. Ça s'appliquera à tout le monde. Donc, on passe d'une rente, quand on a plus de 10%, simple, à une rente duale avec deux composants, et on indemnise maintenant la partie qui correspond au déficit fonctionnel permanent. Donc, c'est beaucoup plus favorable pour l'ensemble des victimes. Par contre, c'est plutôt moins favorable que la jurisprudence actuelle en vigueur pour les victimes de faute inexcusable de l'employeur. Pour la faute inexcusable de l'employeur, vous savez, il faut faire une procédure, il faut aller au pôle social du tribunal judiciaire pour la faire reconnaître. Si on ne l'obtient pas, on peut interjeter appel et que ce soit reconnu par la cour d'appel. Depuis une jurisprudence du 20 janvier 2023 de la Cour de cassation, il était dit que la rente AT-MP n'indemnise pas le DFP. Donc, en expertise de faute inexcusable, on nous demande de fixer des taux de DFP en plus du taux d'IP qui a été fixé en AT-MP par le médecin conseil. Donc, aujourd'hui, les victimes, elles peuvent cumuler les deux. Demain, il y aura bien une rente durale, mais ce ne sera pas l'équivalent d'aujourd'hui du taux d'IP plus complètement le DFP indemnisé en plus. Donc, pour rappel, ces notions où il y a à la fois de l'IP, de l'incapacité permanente et du déficit fonctionnel permanent, c'est les fautes inexcusables de l'employeur, reconnues par le pôle social, c'est les accidents de travail avec une agression par un tiers à l'entreprise, où il y a possibilité de recours en droit commun, c'est les accidents de trajet, où il y a un responsable qui est également tiers à l'entreprise. Puis, de façon plus anecdotique, c'est la faute intentionnelle de l'employeur qui frappe son salarié. C'est quand même plus rare. Alors, deuxième partie, donc ça, c'est à venir, hein, la TMP. La deuxième partie, bah, il est sorti, on l'a en main, le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, dit barème du concours médical. Donc, on est passé de celui à couverture bleue à celui-là, et pour information, ça coûte 30 euros. Voilà. Donc, c'est pas très cher. Hein, voilà. Donc, Vous connaissez tous la définition du déficit fonctionnel permanent dans la nomenclature d'Intillac. On nous a dit qu'il fallait tenir compte des atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi de la douleur permanente. Donc les souffrances endurées, c'est temporaire. Et maintenant, il y a les souffrances post-consolidation, si on veut, qui devraient être intégrées au DFP. Et puis la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Mais on voit tout de suite ce barème, c'est pas écrit DFP, c'est écrit AIPP. Dans tous les tableaux, c'est écrit AIPP et pas DFP. Moi, je suis expert judiciaire, je ne fais pas de mission pour les assurances, donc je parle de DFP. Mais c'est vrai qu'en expertise d'assurance, c'est l'AIPP, l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, qui est définie, et c'est ce qu'il y a dans le tableau. Alors, il y a un débat, hein, et ce n'est pas clair. Monsieur Péan a dit une confusion malencontreuse. Pour la REDOC, globalement, c'est similaire, cette notion de DFP et d'AIPP. La REDOC, c'est côté assureur, hein, mission d'assurance. Et puis l'ANADOC et l'ANAMEVA, c'est côté avocat de victime, médecin de recours. L'AIPP, c'est in abstracto, c'est évalué in abstracto. Et le DFP, ce serait apprécié in concreto en intégrant les souffrances endurées après consolidation et les troubles dans les conditions d'existence. Pourquoi un débat ? C'est qu'est-ce qu'on fixe et qu'est-ce qu'on rajoute, hein ? Est-ce que, du coup, si ce n'est pas dedans, est-ce que ces souffrances post-consolidation et ces troubles dans les conditions d'existence, il faudrait les fixer en plus du DFP, hein ? Ou alors, est-ce que c'est intégré ? Pour c'est intégré dedans, on met un taux, ça comprend les souffrances et les troubles dans les conditions d'existence. Et on voit dans le barème, c'est la même rapport à la version du concours médical 2000, très clairement, il faut tenir compte des souffrances post-consolidation, il faut tenir compte des troubles dans les conditions d'existence. Mais il n'est pas vraiment comment. On dit qu'il faut en tenir compte, mais comment on fait ça, pas forcément. Pour l'ANAMEVA, ce n'est pas prévu dans le barème, donc il faut traiter des souffrances après la consolidation, les autonomiser ces postes de préjudice, de troubles dans les conditions d'existence. Si vous allez regarder sur le site, je vous conseille d'aller et sur le site de la REDOC et sur le site de l'ANADOC. Il y a plein de documents gratuits sur ces deux sites, donc c'est formidable. Il y a des tableaux comparatifs. Et sur le site de l'ANADOC, vous trouvez une attestation sur l'atteinte à la qualité de vie. Moi, je fais des expertises, je n'ai jamais vu de victime arriver avec ce document complété. Hein, mais bon, donc ce n'est pas très diffusé. Mais voilà, on a des questions comme ça où il faut dire sa liberté d'agir et de faire des projets, sa liberté de prendre des décisions, sa vitalité. On dit si elle est altérée, pas altérée par rapport à avant, et puis les gens peuvent commenter. En réalité, il y a aussi tout un tas de questionnaires qui existent sur les troubles dans la qualité de vie, notamment un de l'OMS qui est bien fait. Après, c'est toute la difficulté de ces auto-questionnaires en expertise. La subjectivité du remplissage. Petite information aussi, dans ce barème, on trouve énormément de références sur l'imputabilité. Ça n'est pas que un barème de taux. Il y a beaucoup d'informations aussi, et il y a de la biblio aussi, sur l'imputabilité. Alors, je veux dire et redire, parce que ça, c'est que jamais la Cour de cassation n'a demandé que le lien soit direct, certain et exclusif. Et tout le temps, j'entends des médecins me dire « Ah, il faut que le lien soit direct, certain, exclusif. » Je n'ai jamais trouvé de jurisprudence de la Cour de cassation qui impose que ce soit direct, certain, exclusif. On cherche à évaluer, c'est déjà bien, un dommage direct et certain. Ça, c'est l'imputabilité médicale. Et ça vous a été très bien expliqué par l'avocat ce matin. Le raisonnement des juges et des juristes est différent sur la causalité. Et donc, nous, on apporte nos informations d'experts médecins, on explique ce qui est possible, etc. Et après, c'est le juge qui décidera potentiellement d'une causalité sur la base de présomptions graves, précises et concordantes. Ce sera évalué par le juge, et quand le juge lui dit « je l'ai retenu comme imputable », évaluer le dommage, ben, on doit suivre. Même si on n'est pas forcément d'accord, on doit suivre et évaluer le dommage. Mais en tout cas, ça n'a pas besoin d'être exclusif. Alors, si on rentre plus dans ce barème, donc pour vous illustrer cette imputabilité, ben, par exemple, dans le chapitre du rachis, il est dit que quand on a un traumatisme lombaire qui serait potentiellement à l'origine d'une hernie discale, s'il n'y a pas de lésion osseuse, c'est extrêmement peu probable. Voilà. Si j'ai un accident avec un traumatisme lombaire et que je n'ai pas eu de fracture du rachis et que je viens dire maintenant que j'ai une hernie discale, il est dit, c'est extrêmement peu probable. Les hernies discales post-traumatiques sur des disques sains sont exceptionnelles et nécessitent une énergie vulnérante extrêmement importante qui rend extrêmement le terme extrêmement, hein, peu probable l'existence d'une lésion discale isolée, donc sans fracture. Autre exemple, les troubles psychotiques, il est dit, les troubles psychotiques chroniques ne seront jamais imputés à un événement à dimension psychotraumatique. Par contre, il est admis possiblement une accélération transitoire, on va dire, donc qui passerait par des souffrances endurées pour une réaction psychotique transitoire à proximité d'un accident. Donc, ça je vous l'ai déjà dit, partout où il est écrit, il faut prendre en compte les douleurs post-consolidation, la perte de la qualité de vie. Il est tenu, il y a évidemment ce barème, le précédent avait 25 ans d'existence, donc la médecine a fait beaucoup de progrès. Donc maintenant, on a les douleurs des membres fantômes, des douleurs neuropathiques qui sont plus explicitées. Aussi, pour l'état dépressif, l'évaluation au sein des fourchettes intégrera la douleur morale, l'impact dans la vie quotidienne, notamment l'insertion sociale. Donc on voit là la volonté d'intégrer les douleurs et les troubles dans les conditions d'existence. Après, chose particulière, c'est que pendant un temps, on a raisonné vraiment très fonctionnel. On étudie la mobilité de l'épaule. Peu importe pourquoi la mobilité de l'épaule est réduite, ce qui est pris en compte, c'est la limitation de la mobilité de l'épaule. Là, on voit qu'il est introduit l'origine du handicap. La déficience. C'est-à-dire que selon qu'il existe une lésion osseuse, le taux varie. Donc, pour le même impact fonctionnel, pour la même limitation, on a le même taux qui sera proposé selon qu'il y a une fracture ou pas. Sans doute, l'idée étant que s'il y a une fracture, il y a moins de chances d'amélioration dans le futur. Donc, par exemple, le syndrome fémoro-patellaire après une fracture de la patella, donc la patella, c'est la rotule. Là, on a une fracture, ce sera 5 à 8% un syndrome patellaire après une contusion sans fracture, 2 à 4%. Pour le rachis, lésion osseuse ou pas, traumatisme du rachis sans lésion disco-ligamentaire, 3%. Donc, ça ne fait pas beaucoup, moins de 3%. Il est peu probable s'il n'y a pas de lésion osseuse et s'il n'y a pas de lésion osseuse. Alors que s'il y a un discal qui est comme imputable, on a vu, c'est extrêmement qui a été opéré, c'est 4 à 6 qui n'a pas été opéré. Et puis enfin, une fracture de vertèbre, on a 3 à 5% sans chirurgie. Est-ce qu'elle a été opérée, pas opérée ? Compensation, difficulté à effectuer des activités simples. Et après, on passe à l'arthrodèse. Donc l'arthrodèse 10 à 15 et 15 à 20 s'il persiste une déformation du tronc, des contraintes thérapeutiques, etc. On passe aux membres supérieurs. Alors, une très bonne initiative. Vous savez que quand on est amputé d'un pouce et amputé d'un index, ça devrait valoir plus que la simple addition de l'amputation du pouce et de l'index. Et que dans les barèmes qu'on avait, ce n'était pas prévu. Alors que maintenant, c'est prévu. Si on a une amputation du pouce, alors suivant le niveau, c'est 15 à 20. L'amputation de l'index, c'est 7. Je ne fais pas 15 plus 7 ou 20 plus 7. On me dit l'amputation pouce-index, concrètement, je n'ai plus la pince, donc la main, elle n'est plus très fonctionnelle, même plus du tout. C'est 30%. Ça nous donne 30% pour... Donc, ça tient compte de la synergie et c'est une bonne chose. C'est vrai pour l'amputation, c'est vrai aussi pour la perte totale de la fonction. On n'est pas amputé, mais il n'y a plus de mobilité. On arrive, pareil, à 30%. Par contre, l'arthroplastie, alors il est dit pour chaque arthroplastie, donc les prothèses, que ça ne justifie pas à elle seule un taux d'AIPP. Moi, je dois dire que ça me perturbe un peu. Alors, c'est renvoyé au bilan fonctionnel. Donc, on va faire en fonction du bilan fonctionnel de la limitation de la mobilité. Mais si quelqu'un a une prothèse et qu'il a retrouvé une mobilité parfaite, ça veut dire qu'on devrait lui dire c'est 0%. Et il a quand même une prothèse. Que ce soit une épaule, un coude, une hanche, il a quand même une prothèse. Ce qui est bien avec ce barème, c'est que ça nous incite à améliorer nos examens cliniques. Parce qu'il y a beaucoup de... notamment sur la préhension, sur le membre sup, il est beaucoup fait référence à la mesure de la force musculaire, la mesure entre le pouce et l'index, la mesure de la sensibilité profonde avec les petits écartements, etc. Donc, il est développé beaucoup de notions en disant il faut tenir compte de la force musculaire, etc. Donc logiquement, ça devrait nous inciter à détailler plus nos examens cliniques. Alors ça, c'est très bien. Par contre, moi, j'étais un peu déçue, honnêtement, par le tableau de l'épaule. Alors, c'est juste un extrait hein, du tableau. Mais donc, alors on nous dit limitation de l'élévation, abduction, antépulsion. Moi, pour moi, l'élévation, bah, soit c'est l'élévation latérale, c'est l'abduction, soit l'élévation antérieure, c'est l'antépulsion. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais je pourrais répondre. Voilà, l'élévation. Et puis, on nous dit, bah, voilà, si c'est limité, élévation, abduction, antépulsion à 60, pas grand-chose. Oui, mais qu'est-ce que je fais s'il y en a un qui est limité à 90 et un qui est limité à 40 ? Parce que là, on nous prend les trois. Vous savez bien qu'en sécurité sociale, dans l'épaule, on a limitation de tous les mouvements et que ça cause beaucoup de soucis à la sécurité sociale parce que dès qu'il y a un mouvement qui n'a pas été exploré ou qui n'est pas limité, on dit « Ah ben non, il n'y a pas une limitation de tous les mouvements de l'épaule ». Donc là, on nous dit limitation de plusieurs mouvements limités à 60, ben, si tout n'est pas cohérent. Bon, puis il y a visiblement une erreur dans les chiffres, là, dans le tableau. Voilà, ça a été corrigé. Alors, moi, j'ai reçu, je l'ai commandé tout de suite, hein, c'est pour ça. Okay. Voilà. Donc, il y a eu une erreur dans la première édition sur des chiffres, parce qu'effectivement, là, il y avait un petit problème. Eh ben, c'est parfait. Alors, on arrive, c'est le dernier point sur la psychiatrie, parce que ça nous occupe beaucoup. Encore une fois qu'on a fait l'orthopédie et la psychiatrie, on a quand même fait beaucoup d'expertise. Hein. Et la psychiatrie, là, ben moi, je suis désolée, mais globalement, ça renvoie à demander un sapiteur psychiatre. Et moi, je suis à Amiens. Et à Amiens, on n'a déjà pas de psychiatre, et encore moins de psychiatre, pour soigner les gens. Et pour faire de l'expertise, encore moins. Et les psychiatres qui font de l'expertise, c'est pour faire les expertises d'auteurs, hein, et pas de victimes. Et puis, j'ai déjà demandé des sapiteurs psy. Moi, j'ai souvent été un peu déçue. Hein. De la discussion sur l'imputabilité des expertises psychiatriques. On va nous dire qu'il est d'usage de recourir à un sapiteur psychiatre si le taux dépassera les 5%. On n'a pas assez de sapiteurs psychiatres pour demander à chaque fois l'avis d'un psychiatre. Et je ne sais pas si ça a été modifié, mais c'est écrit en aucun cas une profession paramédicale telle que psychologue. Ce ne sont pas une profession paramédicale. Voilà, les paramédicales, les infirmières, les kinés, etc. C'est les psychologues, c'est des professionnels de santé au sens du code de la sécurité. Des professions paramédicales. Mais peu importe, je vous rejoins, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les fonctions ne doivent pas être fixées par les psychologues. Donc, parce qu'il est dit là qu'en aucun cas, les psychologues n'est habilité à établir un diagnostic médical et à retenir une conclusion médico-légale chiffrée. Ça n'est pas aux psychologues. Voilà, tout seul, de chiffrer. Binôme médecin-psychologue, on peut très bien et donner des chiffres, hein, mais voilà. Mais les psychiatres, on n'en a pas assez. Concrètement, hein. On dit que si on est à 5%, il faudrait solliciter. On nous reprochera de solliciter un psychiatre si on met un taux supérieur à 5%. Des manifestations dépressives physiques, augmentées le plus souvent par la composante algique, durée et ne doivent pas donner lieu à une évaluation. Donc on comprend qu'un syndrome dépressif des souffrances en durée, mais en un taux d'AIPP. Un tableau d'AIPP où il est redit que psychiatre. Alors ce tableau, il a le mérite d'être présent et il est assez détaillé. Ce qui est évidemment... pris en compte, bah, c'est les traitements. Donc, on peut dire que ça pousse un peu à consommer du médicament, mais bon, voilà. À nous de demander les ordonnances. Hein. Moi, je ne me contente plus maintenant de dire, avant, je leur demandais qu'est-ce que vous prenez, mais maintenant, je leur demande les ordonnances. Hein. Et là, vous êtes surpris. Hein. Entre les gens qui vous disent, oui, je prends tout le temps tel médicament, puis quand on leur demande des ordonnances, ils arrivent à nous en donner une. Hein, voilà. Ou, on me l'a fait des fois, ah oui, mais je prends les médicaments de ma femme. OK, bon. Donc, voilà. Alors, et évidemment, il est tenu compte de la prise ou pas d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Et puis après, ça c'est important, c'est l'insertion sociale. Ça c'est vrai que sur les traumatismes psychiques, ce qui nous aide beaucoup, c'est d'interroger très précisément sur les impacts sur la vie sociale. Qu'est-ce que vous faisiez avant et que vous ne faites plus, hein, au-delà du travail. Il y a le travail, mais il y a toute notre vie personnelle en dehors du travail. Donc voilà, on a ce nouveau barème. Par contre, il n'y a pas du tout de tableau avec les mobilités normales, tout ça. Donc on peut se référer à l'ancien barème pour les mobilités normales. Moi, j'étais étonnée de ne pas voir les tableaux avec les mobilités normales. On reste, nous, à la Société française de médecine légale avec un barème qui est vieux, qui a 25 ans aussi, hein, qui a plus de 25 ans, qui est périmé par certains aspects, mais qu'on continuera aussi à utiliser. L'avantage, moi, en tant qu'expert judiciaire, c'est que je ne suis pas tenue par un barème. Donc, en droit commun, on n'est pas tenu par un barème. Donc, je vais voir dans tous les barèmes qui existent, et puis on fait un mixte. Et je signale quand même que, voilà, c'est écrit sur le site de la Société française de médecine légale que cette nouvelle édition du barème, que la Société française donc n'a pas été sollicitée pour l'élaboration de ce barème et n'a donc pas participé à sa rédaction. Donc, il y a quelques personnes qui font partie de la Société française qui sont notées dans les relecteurs, effectivement, mais la Société en tant que telle, la présidente de la Société est là, donc elle pourra répondre s'il y a une question, a écrit voilà, cet avertissement sur notre site. Reste une question, c'est pour les CCI, pour le coup, quand on fait des expertises en responsabilité médicale pour les commissions de conciliation et d'indemnisation, on a un barème fixé par le décret du 4 avril 2003 qui est un copier-coller du barème du concours médical. Donc, est-ce que demain, il y aura un nouveau décret qui va sortir pour dire on copie ce barème-là ? Pas sûr du tout. Évidemment, je peux vous dire d'avance que l'ANAMEVA n'est pas d'accord, hein, voilà, pour que ce barème devienne le barème des CCI, mais à voir. Et pour terminer, moi, je fais un petit rêve. Hein, c'est un barème unique, parce que là, on voit des tas de barèmes qui sortent. C'est compliqué, quand même, notre mission. Hein. Et si on avait un barème unique pour tous les domaines corporels, qui s'appelle fait par tous les acteurs, mais je sais très bien que... Je vous remercie.